Je suis un scientifique tout d'abord et je me suis, pendant toute cette crise pandémique, essentiellement intéressé à la science qui est derrière tout ce cirque. Moi, j'appelle ça un cirque parce que vous avez entendu des autres orateurs qu'il y a avec ces organisations, et j'aimerais l'étendre pas uniquement à l'OMS, mais les organisations de santé mondiale en général ou de santé publique. Il y a beaucoup de façades, hein, et vous avez vu les structures, comme Astrid et d'autres ont expliqué. Les structures sont très, très complexes. Les interactions sont complexes. Il y a beaucoup de bureaucratie. Il y a beaucoup de réunions, etc., etc. Mais moi, je me demande toujours quelle est la science derrière tout cela, hein? Parce qu'au fait, ce qui m'intéresse, c'est la fondation scientifique de l'approche qui est recommandée ou qui est suivie. Et je peux vous dire, bien sûr, également, des gens comme moi et d'autres, des scientifiques, nous avons nos doutes, points de vue, quelles sont les politiques qui jouent, etc. Mais j'ai fait exprès pour ne pas aller dans cette voie-là, ne pas devenir politique. Parce que je parle uniquement des choses que je sais, qui sont mes expériences propres, mes impressions scientifiques qui suivent au fait, ou qui sont les résultats des interactions que j'ai eues, hein, pendant que je travaillais chez Gavi, pendant que j'avais des interactions avec l'OMS, pendant que j'étais à la fondation Bill Gates. Et je crois que c'est important parce que là, effectivement, ça concerne, en ce qui concerne mes expériences, c'est uniquement les vaccins. Donc c'est au fait une petite parenthèse, je dirais, c'est un petit aspect de tout ce conglomérat dont on discute aujourd'hui. Mais néanmoins, les exemples que je vais vous donner peuvent quand même compter. Vous allez voir que même dans mon petit domaine, étant scientifique, travaillant dans les vaccins et vous rapportant uniquement sur mes expériences scientifiques que j'ai eues dans le contexte de ces organisations, qu'il y a des choses vraiment qui ne collent pas. Et je peux vous dire également, il n'y a rien qui fait plus de mal que de détruire la fondation scientifique, ou soi-disant scientifique, de l'approche qui est recommandée par ces organisations ou par l'industrie. Donc, bien sûr, j'ai été fact-checké de tous les côtés, comme tous les autres. Qu'est-ce qu'on s'en fout? On sait que, hein, on raconte la vérité, mais je dois vous dire, jusqu'à présent, aucun collègue de l'industrie où j'ai appris mon métier, franchement, hein, m'a critiqué jusqu'à présent. Donc c'est quand même étonnant, ces gens se rendent compte que, bon, on sait de quoi on parle, et ça fait mal, parce que, bon, si on est qualifié comme complotiste ou anti-vax, ça, c'est beaucoup plus facile au fait parce que, bon, avec ces catégories des gens, on ne parle pas. Si on vient avec des arguments purement scientifiques, c'est beaucoup plus difficile. Hein, d'ailleurs, dans le contexte Covid, on a parlé beaucoup des anti-vax, mais vous savez que l'OMS change continuellement les définitions. Eh bien, moi, j'ai changé la définition d'un anti-vax. Vous savez ce que c'est un anti-vax? C'est quelqu'un qui développe des anticorps contre les vaccins. Voilà. Donc voilà, au fait, moi personnellement, je suis bien sûr naïf puisque je ne suis qu'un scientifique, moi je n'aurais rien contre une organisation qui est vraiment très compétente et qui est transparente pour s'engager, je dirais, dans la lutte contre des maladies ou des problèmes de santé mondiale très relevantes pour coordonner. Hein, parce qu'on voit que, bon, les actions contre le Covid-19 soient justifiées ou non, de toute façon, on a vu que c'était complètement bordélique. Tous les pays ont fait autre chose, les mesures étaient différentes, etc., etc. Donc, une pandémie, bon, c'est normalement, hein, d'une maladie infectieuse qui se répand globalement, d'une façon mondiale, et chaque pays fait autre chose. Donc, ça, c'est pas très, très, très logique. Donc, à condition que effectivement ce soit basé sur de la bonne science et que ce soit transparent, je crois que ce serait pas mal d'avoir quelque part une organisation qui essaye ou qui aide à harmoniser. Mais ça, c'est le grand problème, notamment, c'est effectivement que c'est là où ça coince. Et je dis souvent que la stupidité commence souvent avec une surestimation de soi. Et c'est typiquement qu'on voit dans ces organisations. Par exemple, ces organisations prétendent, il faut des initiatives de santé mondiale afin, par exemple, de pouvoir développer, produire et autoriser ou permettre, je dirais, un accès équitable de vaccins, de médicaments, etc. Donc, si par exemple, donc ça c'est des extraits de certains documents qui font référence donc au rôle de l'OMS dans, je dirais, sa responsabilité de santé mondiale, si l'OMS devait effectivement diriger par exemple, la production globale des vaccins, parce que donc pour rendre les vaccins disponibles pour tout le monde, il faut avoir une production quand même assez considérable et produire les vaccins à un prix raisonnable. À ce moment-là, il faut avoir le support des pays riches et il faut avoir la coopération avec des firmes pharmaceutiques, parce que c'est eux qui ont les brevets et c'est eux qui ont le know-how. Donc là, vous voyez déjà que l'OMS et ses organisations, d'autres organisations qui sont impliquées dans la politique ou stratégie, je dirais, de santé mondiale, n'ont ni les moyens financiers, ni les brevets, ni les outils, ni la compétence, ni le know-how. Et d'un autre côté, ils prétendent qu'ils sont capables de diriger au fait le monde quand ça concerne au fait des problèmes de santé mondiale. Donc vous voyez déjà le genre et le niveau de dépendance. Également, vous savez que ces organisations se permettent même, comme l'OMS, de réguler des vaccins dans certaines conditions, par exemple d'urgence. Ils ont fait ça avec Ebola il y a 7-8 ans. Ils ont essayé de faire ça, ou au moins influencer d'une façon quand même très considérable les autorités régulatoires pour le COVID-19. Ils s'engagent également à faire des études cliniques, par exemple. Pour eux, c'est très, très simple. Je donne un exemple. Donc, la vaccination volontaire pourrait permettre de générer des bases de données plus larges, plus importantes. La question est tout simplement, mais comment est-ce qu'on va convaincre les gens de se faire vacciner avec un produit expérimental d'une façon volontaire? Donc là, on se pose déjà des questions de consentement éclairé. Et donc, c'est vraiment des projections tout à fait naïves. Enfin, moi, quand je lis ça, ça m'étonne plus qu'autre chose. Voilà. Donc, ce qui est très important de savoir, c'est qu'au fait, ces organisations sont complètement dépendantes de l'industrie, des sponsors, etc. En fait, en résumé, moi je dis toujours que ces organisations parviennent à recruter des théoriciens, souvent c'est des théoriciens qui sont très intelligents, qui sur papier sont très intelligents, sont très doués, mais qui sont souvent détachés vraiment de la réalité, qui n'ont pas d'expérience pratique et qui cependant sont tellement bien payés, enfin je crois qu'Astrid en a touché un mot, sont tellement bien payés que forcément ils ont un conflit d'intérêts. En plus de cela, en telle qu'organisation, ils sont complètement dépendants de l'industrie, des sponsors, etc. Donc, il est difficile de s'imaginer comment, dans un contexte pareil, on peut faire de la bonne science. Moi, je dis toujours, mon expérience, c'est que c'est essentiellement des organisations qui sont très bien, hein, qui font un bon travail à parler et mendier. Hein. Mais au fait, le résumé de mes expériences, les discussions avec les scientifiques, vraiment sur des choses fondamentales, c'est que ces organisations sont dysfonctionnelles et complètement incompétentes. Ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas compétents, mais en tant qu'organisation, c'est définitivement la conclusion de mes expériences. Donc, pour l'industrie, c'est très, très facile, puisque ces organisations, très souvent, n'ont pas la capacité de faire un jugement très sain et très logique de ce qui est présenté, de ce qui leur est offert. Parce qu'au fait, l'industrie dit, vous avez un problème, voilà, on a un vaccin. Et souvent, les vaccins qu'on voit maintenant, par exemple, les vaccins mRNA, DNA, les vecteurs viraux, etc., en principe, c'était des vaccins que l'industrie planifiait pour la vaccinologie personnalisée. Pas pour une vaccination de masse, pas pour des vaccinations contre des maladies infectieuses, enfin des populations très très larges. Mais au fait, ces organisations, tout simplement, croient, l'industrie fait un vaccin, donc c'est le bon vaccin, donc on doit uniquement s'occuper de comment le payer, se procurer, le distribuer, etc. etc. Ils n'analysent même plus d'une façon critique si oui ou non ce vaccin répond au profil qui est nécessaire pour une certaine situation et que l'impact, au fait, de ce vaccin sur le système immunitaire, à un niveau même de la population. Et donc, ils croient tout simplement que, puisque c'est des technologies modernes, donc c'est très sexy, c'est très moderne, on va pouvoir contrôler le virus, parce que la technologie est complètement up-to-date, mais ils oublient la biologie, quoi. On ne parle plus de la biologie. Ces gens-là, souvent, ne comprennent pas l'interaction entre le hôte et le pathogène, surtout pas à un niveau de la population, et ils comprennent encore moins ce que ça va faire avec le virus, ce que ça va faire avec le système immunitaire, si maintenant on commence à vacciner des millions de gens. Enfin, certains pays ont été vaccinés un taux jusqu'à 70-80%. Donc ça, c'est un domaine complètement inconnu. Et donc, il manque tout le pragmatisme, et je dirais également, il y a des dogmes. Par exemple, il y a une pandémie, il faut un vaccin. Moi, je dis toujours, il n'y a rien de plus efficace pour éliminer un virus que l'immunité naturelle qui se fait, qui se construit durant une pandémie. C'est notamment le fameux mot « immunité de groupe ». C'est ce qui est le plus efficace. Et effectivement, les gens vont monter des anticorps. Alors, les vaccinologues disent oui, mais nous, on sait faire ça beaucoup mieux parce qu'avec des vaccins, les taux d'anticorps sont beaucoup plus élevés. Ces idiots oublient que lorsqu'on a affaire à une pandémie naturelle, qu'il y a une composante du système immunitaire qui est cruciale et qui n'est pas induite par les vaccins, sûrement pas par des vaccins non vivants, et c'est notamment l'immunité innée. Donc imaginez-vous, on a affaire à une population qui est immunologiquement naïve, soudainement on a affaire avec un virus que la population n'a jamais vu, et 95% de la population est tout simplement protégée. Oui, même si les gens sont peut-être malades pendant quelques jours, etc. En gros, la population est protégée. Mais comment ça se fait? Parce que la population était immunologiquement naïve. C'est l'immunité innée qui va capter la plus grande partie du virus. Et donc, pour l'immunité adaptive, il n'y a plus que quelques particules virales qui doivent être éliminées. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, en général, les taux d'anticorps de quelqu'un qui a subi une infection naturelle sont moins élevés et la durée de ces anticorps est moins importante que lors d'une vaccination. Au fait, Ce qu'on ne comprend pas non plus, parce que hein, on consulte à ce moment-là les experts. Ah, coronavirus, c'est hein, donc corona, c'est un virus, donc on doit consulter les virologues, etc. Et par exemple, dans mon pays, c'est les virologues qui ont suivi tout et qui ont donné toutes les recommandations, etc. Ils oublient qu'on a affaire avec un phénomène multifactoriel, au fait, et que ce n'est pas uniquement la virologie qui est impliquée, mais également l'immunologie, hein, bien sûr la vaccinologie, bien sûr la biologie évolutionnaire, etc. Donc, cette approche holistique, tout le monde en parle, mais personne ne le fait. Ils ont recours à des spécialistes qui sont des experts dans leur domaine, mais souvent ignorent des connaissances fondamentales dans d'autres domaines. Donc, pour moi, ici, il ne faut pas nécessairement consulter hein, des experts, des super experts dans un seul domaine. Il faut avoir des gens qui ont mangé un petit peu de tous ces gâteaux, au fait. Oui, on a déjà parlé de la corruption. C'est quand même étonnant, allez, hein, parce qu'on parle de ces organisations, et je crois que quelqu'un l'a dit, je crois que c'est peut-être Astrid ou Christian, que les gens qui travaillent dans ces organisations, c'est des gens comme vous et moi, hein, c'est des gens qui ont de bonnes intentions, souvent de bon cœur, qui sont intelligents, qui font leur boulot. C'est quand même étonnant que c'est toujours au sommet hein, qu'il y a cette corruption. C'est toujours là que ça se passe, peut-être 1% ou au moins, enfin, le upper management, qui ont beaucoup d'influence, bien sûr, et qui ont beaucoup d'influence sur les employés, etc. Donc voilà, c'est ça le malheur. Et on voit ça essentiellement dans des organisations qui ont beaucoup d'influence. Ici, comme l'OMS, beaucoup d'influence sur la stratégie de santé mondiale. On a vu ça à l'époque, enfin à l'époque, on le voit peut-être toujours, hein, avec l'Église, quand ça concerne la religion, l'Église a beaucoup d'influence. Ben, on voit qu'au sommet, il y a corruption, enfin, c'est inévitable, on voit ça dans l'industrie, etc. Donc, mais également, entre ces organisations, il n'y a pas de collaboration. Moi, quand j'ai travaillé avec Gavi, donc Gavi, UNICEF, l'OMS, moi, je croyais que c'est des frères et sœurs, quoi. Donc, c'est le même débat, ce n'est pas du tout ça. Hein. Donc, la communication, elle est souvent lamentable et on cache des choses, on n'est pas du tout transparent. Donc, ce n'est pas uniquement au sein de l'organisation même qu'il y a une certaine corruption, mais également entre ces organisations. Et je vous donnerai des exemples parce qu'au fait, c'est facile de faire des déclarations comme ça. Hein. Je prétends ceci, je prétends cela, mais je vous donnerai des exemples où vraiment noir sur blanc, ça a été prouvé. Moi, ce que je trouve très étonnant également, c'est que le seuil de tolérance à l'égard des erreurs que ces organisations, je ne les appelle même pas des organisations, je préfère les appeler des institutions, hein, parce qu'ils aiment bien l'hiérarchie, la structure, les formalités, etc. Et au fait, c'est quand même étonnant que le seuil de tolérance vis-à-vis des erreurs que font ces institutions est très, très élevé, étant donné l'impact que leurs décisions ont. Hein, par exemple, l'histoire Covid, on en parle tout le temps. Quand on voit l'impact que ça a sur la santé, pas uniquement individuelle, mais la santé globale de toute une société, c'est quand même incroyable qu'ils peuvent se permettre des choses pareilles sans que ça ait des conséquences immédiates. Enfin, dans le privé, on ne pourrait jamais s'imaginer ça. Donc, je ne comprends pas comment ça se fait que ces organisations ont tellement d'autonomie, hein, liberté d'action, des privilèges, immunité, enfin, on a diplomatique, juridique, on en a parlé. Et donc, des situations vraiment incompréhensibles. Et donc, tout ceci, pour moi, explique pourquoi, sur le plan pratique, moi, je suis quelqu'un du terrain, ces organisations ne fonctionnent pas et ils ne sont pas du tout préparés à résoudre des problèmes. Donc, on a parlé également déjà de l'accès global et des, des médicaments, des vaccins, etc. Donc, ces organisations n'ont pas uniquement échoué largement, surtout concernant les nouveaux problèmes, pour rendre les médicaments, les vaccins accessibles à ceux vraiment qui en ont besoin. Mais en plus, il y a des erreurs qui ont été commises et qui sont vraiment très, très graves. Moi, j'ai vécu l'histoire quand j'étais chez Gavi avec Ebola. Je vous raconte ça en deux mots parce que j'ai écrit un papier là-dessus qui a circulé partout au monde à l'époque, il y a 7 ans, et qui a été aussi CDC, NIH, FDA, IMEA, Bill and Melinda Gates Foundation, UNICEF, l'OMS, etc. Tout le monde l'a lu, personne n'a réagi. Mais donc, ça concernait le vaccin Merck, hein, qui était un vaccin qui était vivant, atténué. Et donc, lorsqu'il y a eu l'épidémie Ebola, on a dit, tiens, voilà, on va vacciner. L'OMS a pris le lead, soi-disant, dans la campagne de vaccination. C'est eux qui ont conduit les études cliniques. Ils ont dit, tiens, voilà, on est des gens intelligents, on va faire comme pour la variole à l'époque. Donc, on fait une vaccination en anneau. Donc, ça veut dire que quelqu'un est infecté et donc diagnostiqué. Et puis, on va vacciner tous les gens qui ont eu contact avec le cas, enfin, le index case, donc le cas identifié. Il faut savoir que le vaccin Merck était très connu pour être très inflammatoire. C'était un vecteur, l'adéno, au fait, vivant, un virus vivant qui est capable de se répliquer. Il faut savoir également que quand les gens meurent de l'Ebola, ce n'est pas tellement de l'effet direct du virus, mais c'est de ce qu'on appelle la tempête cytokine, enfin les réactions inflammatoires liées aux cytokines. Et donc, ils ont dit, tiens, voilà, le temps d'incubation de l'Ebola est à peu près de 10 jours. Donc, on ne va pas monitorer l'étude avant 10 jours après la vaccination. Donc, ils ont vacciné les gens, ils ont attendu 10 jours. Bien sûr, pendant ces 10 jours, les gens qui étaient en train d'incuber Ebola et qui ont reçu en plus le vaccin vivant, il y en a qui sont décédés. Et donc ça n'a jamais été rapporté parce que le reporting commençait que 10 jours après la vaccination. Donc au fait, là, ils ont violé, c'est ça que je dis, c'est fondamentalement, scientifiquement, c'est incompréhensible comment ils peuvent vacciner. Et donc c'est un fundamental rule, donc un règle fondamentale en vaccinologie, qu'on ne vaccine pas durant le temps d'incubation d'une maladie. Donc ils l'ont fait. Avec, donc au fait, qu'est-ce que ça fait? Ça accélère au fait et ça aggrave la maladie d'un point tel que les gens peuvent mourir. Pour le Covid, ils ont fait quelque chose de semblable. Là, ils ont permis aux gens qui étaient en train de développer des anticorps d'être exposés au virus. C'est un peu le cas contraire, c'est-à-dire les gens étaient vaccinés, et ça prend du temps avant de développer des anticorps, etc. Pendant cette période-là, la réponse immunitaire n'est pas complètement mature, mais si on permet à ces gens-là d'être exposés, ce qui était au fait le cas parce que le virus circulait, eh bien à ce moment-là, la réaction, la réponse immunitaire est insuffisante pour éliminer le virus. Donc le virus, à ce moment-là, peut faire une sélection naturelle des mutantes, il y a tout le temps des mutations, et peut devenir donc plus infectieux. Ce qu'on a vu, au fait, parce que bon, vous avez vu alpha, beta, gamma, delta, omicron, etc., il y avait chaque fois un dénominateur commun, c'était que le virus était plus infectieux. Donc, au fait, oui, je peux aller très rapidement sur ce slide-là. Donc, la question que moi je posais en travaillant avec Gavi, je demandais à l'OMS, donc au responsable de l'étude clinique, oui, mais est-ce que, donnez-nous tout simplement, tous les cas de décès à partir du jour zéro de la vaccination pour pouvoir inclure les cas de mortalité potentielle avant le jour 10, qui était le début de l'étude clinique. Et donc, on aurait comparé ça au groupe contrôle pour voir si la vaccination précipitait, au fait, le taux de mortalité. Ah non, 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 c'était confidentiel. Il faut s'imaginer, hein, Gavi, finance l'OMS et met tout son argent. Ah, c'est confidentiel, on ne peut pas donner les données, etc., etc. Donc, c'est des choses qui sont. Ça, c'est déjà un exemple vraiment très frappant, comment ça fonctionne. Et donc, ça, c'était bien sûr à petite échelle, parce que bon, allez, qu'est-ce qu'on s'en fout? Trois pays, l'Afrique, l'Ouest, il n'y a personne qui en parle, quoi. Donc, à petite échelle, on a pu cacher cela, malgré le fait que moi j'ai fait ce papier toujours sur mon site internet et ce papier a vu le monde entier. Hein, personne n'a réagi. Bien sûr que j'étais très très bien préparé quand la même chose s'est passée ou une chose semblable avec la vaccination en masse pendant la pandémie, pendant que les gens étaient exposés au virus du Covid. C'est pour ça que j'ai assez rapidement réagi. Et voilà, donc oui, j'ai décrit le problème de la sélection naturelle étant lié à la vaccination en masse durant une pandémie dans un livre que j'ai écrit récemment, pas pour écrire un livre, c'est pas mon truc, c'est pas mon genre, mais je voulais absolument que cette fois-ci, que la science derrière cette connerie-là était bien documentée. Parce que pour moi, la conclusion de tout ce cirque-là est que rien n'était plus prédictible que la vaccination en masse pendant une pandémie aurait des effets très très néfastes, pas uniquement pour la santé individuelle, mais également au niveau de la santé publique ou de la santé mondiale même. Et donc, pour moi, il n'y a qu'une seule urgence sanitaire de portée internationale, c'est de démanteler l'OMS, réellement. Je sais, Astrid, je sais que c'est plus compliqué, hein, étant donné toutes les dépendances, mais moi, je n'exclus pas que, et on pourra en parler par après, que la nature nous donnera une opportunité de recommencer avec une ardoise vierge. Parce que tout le monde parle de ces deux partis, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, mais hein, personne ne parle plus du virus. Ces deux partis essaient de se contrôler, mais il n'y a aucune de ces parties qui contrôle le virus. Ce qui est quand même, parce qu'on sait que le virus continue à être transmis, n'est pas sous contrôle, ce n'est pas possible parce qu'il n'y a pas d'immunité de groupe. Oui, enfin, qui peut comprendre pourquoi l'OMS recommande une vaccination de masse hein, pour une pandémie? On peut en discuter, pandémie ou pas. Enfin, moi, je crois qu'effectivement, il y a le virus qui se répandait quand même, comme a dit Christian, d'une façon globale. Mais quand ça, c'est le cas, il faut avoir un vaccin qui inhibe, qui prévient la transmission. Donc, le profil de leur vaccin, dès le début, c'était très, très clair que ce n'était pas un vaccin qui pouvait éviter la transmission, protéger uniquement contre les symptômes. Oui, mais attendez, vous avez un vaccin qui protège contre les symptômes sans prévenir la transmission. Donc, ce que vous faites, au fait, c'est rendre les gens asymptomatiques. Donc, les gens ne se rendent même pas compte qu'ils sont infectés. Et donc, ça favorise encore, au fait, la transmission. Donc, c'est vraiment, c'est des fautes graves une violation vraiment des principes fondamentaux de vaccinologie. Je ne comprends pas non plus comment on peut autoriser l'OMS de servir comme agence régulatoire. Hein, donc, pour moi, il y a beaucoup de façades, mais quand on commence à creuser, quand on commence à creuser dans la science, vraiment le contenu est pour moi nul, hein, nul. Si c'était un étudiant qui racontait des choses pareilles, écoute, pour moi, il ne devait plus revenir. Hein, donc, c'est fini, quoi, c'est fini. Mais je crois également que critiquer, c'est une chose, mais il faut commencer à penser comment est-ce qu'on remplace ces structures. Et il faut absolument, enfin, moi j'avais fait cette proposition pendant que j'étais à Gavi, oh, bien sûr, ça a été ignoré, mais c'est une structure qui, au fait, propose quelque part un team multidisciplinaire indépendant, bien sûr, qui en tout réunit les compétences, aussi bien hein, pour le. Donc, je parle toujours des vaccins, du développement préclinique, production de vaccins, etc. Et qui a un menu à la carte, qui travaille avec des agences spécialisées dans le développement préclinique, dans le développement clinique, avec des autorités régulatoires, etc. Donc, c'est un menu à la carte, mais où on se rend complètement indépendant de l'industrie. Je ne crois pas qu'on a besoin de l'industrie pour faire un travail très, très bien, finalement. Et donc, moi, je ne suis pas, je crois que c'est mon dernier slide, je ne suis sûrement pas contre une harmonisation. Je crois que quand vraiment il s'agit de problèmes de santé qui concernent quasiment le monde entier, je crois que des recommandations qui peuvent également harmoniser des initiatives seraient beaucoup plus ouverts à accepter ces initiatives et ces recommandations pourvu qu'ils voient vraiment que c'est basé sur de la bonne science, sur un bon débat, d'une façon très très transparente, etc. Alors, il y a certains d'entre vous qui vont dire, oui, Van den Bosch, dans certaines conditions, il serait d'accord pour qu'on fasse de la vaccination en masse, par exemple, si c'est scientifiquement justifié. Mais moi, je vous dis une chose. Toutes les pandémies qui concernent des virus qui causent des infections aiguës, mais autolimitantes, donc c'est compliqué, mais au fait ce ne l'est pas. Il y a un certain nombre de virus, comme par exemple Corona, comme Influenza, comme Rota, comme Parvovirus, etc., qui causent une maladie qui, dans la plupart des cas, la maladie se termine automatiquement, on est guéri et on élimine le virus. Dans tout ces, donc je ne parle clairement pas du sida, je ne parle pas d'autres infections comme la tuberculose ou malaria ou des maladies virales chroniques. Je parle des maladies aiguës, hein, autolimitantes. Aucune de ces pandémies a besoin d'un vaccin. Au contraire, la meilleure façon de les contrôler, c'est effectivement l'immunité naturelle qui est composée pas uniquement de l'immunité innée, et également de l'immunité adaptive. Et effectivement, comme on a tous dit, des gens qui sont malades restent chez eux. Les gens et il faut les traiter. Et on a les moyens de le faire. Donc, n'ayez pas crainte qu'on va venir avec des vaccins pour des pandémies similaires. Comme tout le monde a dit ici, on ne peut pas nous défendre avec les mêmes armes. Mais il suffit d'une seule chose, c'est de dire non. Hein? Vous, ma santé, c'est mon corps. Vous voulez vacciner mes enfants? Non. Moi, j'ai la responsabilité de la santé de mes enfants. On dit tout simplement non. Et s'ils disent, ah oui, c'est des vaccins efficaces et safe, moi, je dis non. Parce qu'ici, les arguments, je les ai documentés dans mon livre, il y en a d'autres qui ont documenté ça dans des présentations, etc., dans des publications, c'est non à chaque fois. Et c'est comme ça que je crois qu'on peut vraiment les décourager. J'ai déjà dit que, bon, je ne suis pas un anti-vax, j'ai quand même point de vue vaccination des enfants, etc. Je maintiens que ça a un sens hein, de vacciner les enfants hein, contre des maladies comme la rougeole, measles, donc c'est la rougeole, c'est la rubéole et les oreillons, ouais, en français. Parce que là, au fait, la population a une immunité de groupe. C'est une situation très, très différente du Covid, a une immunité de groupe. Mais c'est vrai que régulièrement, par exemple, les nouveau-nés, etc., sont immunologiquement naïfs. Donc, il y a des trous dans cette immunité de groupe. Et il faut combler ce trou. Donc, dans ce sens-là, ça a sûrement un sens de vacciner les enfants. On utilise des virus vivants. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que l'industrie utilise encore des virus vivants alors qu'ils ont toutes les technologies modernes ? Parce que les virus vivants stimulent l'immunité innée, ce qu'en font pas les vaccins non vivants. Mais donc, ce qu'il faut faire, et c'est là où j'ai travaillé pas mal sur les natural killer cells, qu'il faut essayer de développer des vaccins Enfin, on ne les appellera plus les vaccins, hein, parce que le nom vaccin, pour moi, il sera rejeté du vademécum médical. Hein, donc après, là, mais il faudra développer des interventions, je dirais, immunitaires, qui permettent de stimuler l'immunité innée sans avoir recours à des virus vivants, à des vaccins vivants. Parce qu'on sait qu'effectivement, dans certains cas, il y a des effets secondaires. Je crois que je vais tout doucement arrêter là. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Thank you.
Merci beaucoup. Oui.